bienvenue à la French Connection épisode 119. Nous recommençons un peu l'horaire régulier d'enregistrement. Dans les prochaines semaines, ça va devenir les épisodes qui ont été retardés vont sortir. Et nous allons commencer à reprendre l'horaire régulier et l'enregistrement régulier également et plusieurs autres petits extra à côté. Commençons par les Shameless Plug. 26 septembre, Québec Sec va présenter un sujet qui est encore inconnu, qui nous sera présenté probablement dans les prochaines semaines. 7 au 9 octobre, ISACA Québec présente le Congrès international sur les opportunités et les défis des technologies émergentes. Allez consulter le site dans les show notes. Beaucoup de super conférences internationales. Très beau sujet. Absolument, allez ne pas manquer en termes de regard plus généraliste sur la sécurité de l'information et l'aspect des technologies émergentes dans tout ça. Le 1-2 novembre, le plus gros événement de sécurité offensive probablement au Canada, le ACFest Upside Edition. Panoplie de choses super intéressantes. Plein de concours, les CTF sont déjà overbookés. Soyez attentifs, on prendra des choses de plus qui vont s'ouvrir avec le temps. Des conférenciers vont commencer à apparaître bientôt. Ça va être super chouette comme événement. Le 20 avril, le Québec numérique représente pour la deuxième édition le Sécur, dans lequel on continue notre percée dans le domaine de la sécurité défensive en termes de présentation de contenu. Nous avons plusieurs surprises qui s'en viennent. Soyez très attentifs à ce qui s'en vient. Et donc, commençons avec les différents sujets. La première, c'est Twitter. Twitter a tenu l'attention pour deux éléments très importants. La première, c'est que son président, son CEO, a eu son compte hacké, ce qui est tout à fait comique quand on pense que le propriétaire, ou le plus haut dirigeant d'une compagnie comme celle-là, n'a pas des mesures de sécurité qui sont adéquates. Et ce qui apparaît dans les différents éléments corollaires à ça, c'est qu'on a pu constater que ce président-là utilisait les SMS comme étant un deuxième facteur d'authentification, ce qui a fait qu'il a été réussi à être utilisé contre lui. Conséquemment, Twitter a désactivé l'usage du SMS comme étant un moyen d'utiliser la plateforme. Par ailleurs, là, c'est tout le débat autour de l'usage du SMS comme étant un moyen de sécurité et d'authentification est revenu à la surface parce qu'effectivement, ce n'est pas un moyen efficace, hors de tout doute. Par ailleurs, ça prend beaucoup de sous réussir à utiliser cette méthode-là pour attaquer une compagnie. Mais comme dans un cas d'un cas aussi grande diffusion que ça, disons que c'est très justifié, mettons, pour l'attaquant de mettre l'argent nécessaire pour réussir à aller chercher le compte d'un CEO d'une aussi grande boîte dans les médias sociaux. Donc, ça nous ramène sur le fait que souvent les hauts dirigeants sont peut-être un peu plus résistants à la mise en place de mesures de sécurité beaucoup plus contraignante jusqu'à certains points. Mais en même temps, c'est les cibles les plus juteuses de l'organisation. Et comme on en revient aussi au fait de la faute du président institut, les attaquants vont s'intéresser à où est l'argent et où est la visibilité. Donc, dans ce cas-ci, les hauts dirigeants qui ont généralement des pouvoirs financiers sur l'entreprise et non des pouvoirs d'accès à l'information beaucoup plus importants vont être des cibles beaucoup plus intéressantes. Donc, pour les protéger davantage, un peu contre leur gré, je dois dire, parce qu'ils sont, comme je disais, ils sont très résistants. Mais maintenant, c'est un peu notre fardeau, nous autres, de les éduquer, à leur faire comprendre qu'ils sont quand même propriétaires des clés de l'entreprise ou de l'organisme. Et donc, c'est eux qui ont la capacité de mettre des mesures en place pour résister. Et ensuite, par l'exemple, ils vont réussir à faire descendre les mesures plus bas et donc appliquer à la plupart des gens de l'entreprise. Nouvelle suivante. Les États américains ont stocké toutes les informations qui sont en rapport avec le Real ID, qui sont une base de données avec beaucoup d'informations sur les conducteurs. Cette base de données est très grande et probablement mal protégée, en tout cas dans certains cas, ce qui est disponible comme information. Et de ce fait que cette information-là soit aussi volumineuse, aussi importante, ça attire naturellement les voleurs, un peu comme la nouvelle précédente, les cibles de choix, les cibles avec le plus de données vont être les cibles les plus importantes. C'est pas la première fois que je le mentionne dans mes présentations ou même sur le podcast. Mais cette surabondance d'informations-là devient en même temps un problème de liabilité, là, j'ai juste le terme anglais en tête, qui va attirer le regard des pirates, des personnes qui désirent utiliser malicieusement cette information-là. Donc, en même temps, pour les entreprises et pour les organismes, il est peut-être important de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec les informations et leur donner un cycle de vie pour les détruire à la fin de ce cycle-là, pour plus qu'ils ne soient utilisables et donc, à ce moment-là, réduisent la valeur de ces bases de données. C'est une réflexion très importante à avoir, autant quand on a de l'information pour la protéger, autant que si on peut en avoir un peu moins, ça permettrait justement d'éviter d'avoir à posséder trop d'informations et devenir une cible de choix. Nouvelle suivante, qui est à deux phases, le DOD, le département de la défense américaine, a émis des conditions minimales de sécurité que les contracteurs américains pour la défense devront respecter. Ça se fait un peu, la nouvelle se fait en deux phases, c'est-à-dire que ces 10 contracteurs-là ne comprennent pas la moitié de ce qu'il leur est demandé et ça a soulevé énormément de questions et énormément de brouhaha autour de ça. Donc, ça exprime à quel point même le milieu de la défense américaine est sous-outillé ou peu connaissant de tout ce qui entoure ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu fascinant en soi parce qu'on aurait tendance à penser que ça serait l'endroit le plus sécuritaire et de toute apparence, les contracteurs ne le sont pas tant que ça. Et à ça, ces requis-là amènent les contracteurs à devoir respecter des niveaux de maturité du type CMMI et ainsi de suite. Donc, de là, les amener à se rehausser. Mais certains commentateurs ont soulevé le fait que ça doit faire pendant 30 ans que l'armée américaine met en place des mesures comme ça pour rehausser la qualité du code qui est développé, la qualité des informations qui lui sont produites. Et malgré ça, il y a encore des failles qui passent à travers les mailles du filet parce que c'est ultimement peut-être pas tout à fait ça qui réussit à lever ça. Donc, de réussir à mettre peut-être des contrôles ou mettre des vérifications pour s'assurer que ces 10 contracteurs-là respectent les différentes règles. Puis essentiellement, on revient toujours dans le giron du NIST. C'est le NIST, le Special Publication 800-53, qui est l'espèce de catalogue universel de contrôle du gouvernement américain essentiellement, dans lequel le département de la défense exige les différents contracteurs à se conformer. Et ce qui en soit pas c'est une très bonne chose, ça me permet au niveau de l'eau d'augmenter en espérant que ça a un effet réel puis que ça entraîne le restant de la communauté à augmenter la qualité de leur pratique en sécurité pour qu'on arrête d'en parler, qu'on en parle. Pour ceux qui ont vécu au-dessus d'une roche, l'été a été assez rock'n'roll de ce côté-là. On a eu beaucoup de divulgation au niveau canadien et québécois qui a eu des effets quand même assez importants. Cela, maintenant, nouvelle suivante. Aux États-Unis, puis probablement dans le restant du monde aussi, il y aurait une épidémie de rançon logicielle qui affecte à peu près tout et n'importe quoi aux États-Unis, c'est-à-dire des villes, des commissions scolaires. On a vu la ville de Baltimore, malheureusement, tomber de façon très disgracieuse face à ce genre de choses-là parce que finalement les malveillants ont découvert que c'était plus facile d'aller par ce chemin-là et essentiellement réussir à aller chercher de l'information, aller chercher de l'argent intimement parce que l'information s'en fout peut-être un peu plus. Eux autres, c'est l'argent qui les intéresse énormément, là. Fait que de là, sont capables d'aller chercher une bonne quantité d'argent en pénalisant ces institutions-là. Puis, certaines refusent de payer, mais en même temps, ceux qui refusent de payer se trouvent dans l'embarras. On l'a vu dans la ville de Baltimore. Ça a été un fiasco assez monumental. Puis, c'est assez troublant de voir que autant de villes, organisations, commissions scolaires, hôpitaux, et ainsi de suite, tombent vulnérables à ce genre de choses-là. Puisque les rançons logicielles exigent en généralement que l'utilisateur soit participant, c'est-à-dire qu'il clique sur le lien malicieux et ou exécute une pièce dangereuse dans leur infrastructure. Ça, c'est une chose. La deuxième, généralement, les systèmes, les rançons logicielles vont utiliser des vulnérabilités qui sont genre, pas très récentes en plus. Ce qui fait que ça démontre à quel point nos infrastructures ont une dette technologique et de sécurité qui est quand même immense, somme toute. Ce qui fait que ça aussi, c'est relativement troublant à penser que on est encore, on a des infrastructures vieillissantes, un peu comme, en tout cas, du moins, nous, au Québec, on peut voir plus de façon plus apparente, là, disons, certaines désuétudes ou décrépitudes dans certains cas, là, dans certaines zones, dont nos infrastructures routières, entre autres, où on a eu il y a quelques années un pont qui est tombé, par exemple, où on est où on se chicane encore pour l'entretien de certaines autres pièces d'infrastructure importantes. Donc, on est dans une zone où là, ça commence à avoir des conséquences monétaires, ce manquement-là. Et on est encore chanceux pendant ces cas-là. On n'a pas eu de cas de morts qui sont associés avec ces problèmes-là. Mais il s'agit juste qu'on tombe dans des cas d'hôpitaux et qu'on pénalise des systèmes qui sont vitaux au fonctionnement de l'hôpital et qui sont essentiellement vitaux à la bonne conduite des soins qui sont donnés aux patients de ces hôpitaux-là. On va se retrouver dans un monde complètement différent. Donc, c'est assez épeurant. J'espère que cette mauvaise habitude de laisser dégénérer les infrastructures technologiques va cesser, puisqu'il commence à avoir des effets de bord qui sont assez importants, parce qu'on va finir par avoir des vies humaines qui vont être en jeu à cause de ce laisser-aller-là qu'on a fait pendant beaucoup, beaucoup d'années. Ici comme ailleurs, donc on n'est pas, je ne lance pas de pierre nécessairement aux gens, mais sur la nouvelle est aux États-Unis, puis il y avait aussi en Angleterre, puis j'imagine que dans toute la plupart des pays de l'Occident, on est tous dans le même défi, où on a laissé un peu les choses glisser et laissé les choses malheureusement aller croche. Et d'ailleurs, ça serait aussi important que les entreprises se mettent en main, parce que les législateurs risquent de tomber là-dedans, puis quand les législateurs se mêlent de situations comme ça, ça nous amène à des situations peut-être un peu moins intéressantes, un peu moins pour la population. Bref, pas pour la population, mais pour les entreprises. Donc, ça enlève un peu de dynamisme. Je ne sais pas là, à quel point il va devoir intervenir. J'ai peur que ça va devenir force de loi bientôt de ça, puis la responsabilité qui en incombe avec. Autre nouvelle, Google Project Zero a divulgué au moment de l'enregistrement, c'est à peu près il y a une semaine-ish, qu'il y a une vulnérabilité très importante dans le système d'exploitation iOS qui est étudiée dans un contexte de watering holes, c'est-à-dire que c'est une vulnérabilité qui utilise le fait que les gens passent obligatoirement par un passage désigné pour les intercepter puis pour les attaquer. Cette divulgation-là a causé beaucoup, beaucoup d'interrogations de part et d'autre, puisque certains commentateurs ont commencer à soulever le fait que la démarche de Google était peut-être intéressée, pas intéressée au sens où on dit Google, une volonté de sécurité pour aider la communauté au sens large, mais intéressée parce que ça attaquait directement à Apple, qui est son principal compétiteur, du moins pour les téléphones intelligents. Donc, c'est un peu particulier comme façon que la divulgation. Les nouvelles sont pas très claires. Et de ça est sorti le fait qu'Apple a fait une sortie publique à peu près une semaine après la diffusion de Google Project Zero, dans laquelle il venait démentir une partie des informations que Google avait diffusées en signifiant que la portée de la vulnérabilité, pas qu'elle n'était pas grave la vulnérabilité, mais l'atteinte à des gens a été très, très ciblée et très limitée dans le temps. C'est-à-dire que c'était dans une zone géographique très définie dans laquelle elle a été utilisée par un acteur étatique très puissant qui voulait s'en prendre à un groupe ethnique très défini, selon ce qui est mentionné dans la nouvelle. Et ça n'aurait pas duré très longtemps, c'est 2 mois que l'espace dans le temps a été fait. Il y a comme un peu une contradiction dans les nouvelles qui sont annoncées puis comment elles sont faites. Ça serait malheureux que des compagnies commencent à utiliser la divulgation pour se faire du mérite sur le dos des autres, parce que la sécurité, c'est comme la santé publique. C'est pas un endroit où on a avantage de faire valoir qu'on est meilleur que l'autre. On est un endroit où on est mieux de faire valoir que la coopération nous amène à un endroit supérieur et que ça nous permet, comme collectivité, d'aller plus loin et de protéger l'ensemble des gens de la collectivité. Fait que, ça va peut-être se changer dans les prochains jours ou semaines, peut-être des nouvelles vont se préciser, mais cela dit, c'est très, très étonnant la façon que la nouvelle s'est diffusée. Peut-être voir comment les choses vont On se dit dans les prochains jours et voir comment chacun va réagir. Puis là, en ce sens-là, je ne dis pas nécessairement que Apple a plus raison que Google dans ce cas-ci, parce que naturellement, les autres vont le défendre leur réputation. Fait que c'est un peu difficile de tracer le vrai du faux à travers tout ça, puis d'être capable de distinguer qui dit vrai, totalement vrai, et qui dit toute l'information qui est légitime dans ce cas-ci. Et j'ose espérer que le temps va nous aider à éclaircir ce genre de choses-là. Nouvelle suivante, là, c'est Google Play ont pris avec beaucoup de problèmes, dont un malware en question qui a été downloadé plus que 1 million de fois. Donc, c'est très difficile de contrôler ça. Là, dans ce cas-ci, c'est Google Play qui est pointé du doigt, mais le App Store d'Apple l'a été aussi pour des choses peut-être un peu moins graves que celles de Google Play. Mais il demeure pas moins que les acteurs malicieux utilisent ces avenues-là pour réussir à infiltrer les marchés et diffuser leur code malicieux. Et jusqu'à présent, il a démontré qu'autant Apple que Google, le contrôle qu'ils font a priori pour limiter ce code-là malicieux de rentrer dans leur marketplace, dans leur marché, est quand même limité. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer parce que, comme consommateur, je m'attends que, surtout quand on est dans un jardin fermé comme celui d'Apple, qu'un minimum d'efforts qui est fait de la part d'Apple pour limiter mon exposition à des problèmes de sécurité, surtout quand ils m'obligent à passer par un magasin ou un marché qui est contrôlé par... Donc, ça m'enlève toute capacité comme un consommateur de faire valoir mon propre jugement parce que là, je m'en préfère à eux autres pour prendre ce genre de décision. Ça sera intéressant de voir s'il va mettre des mesures. Je sais qu'Apple répond très rapidement généralement. Google Play, probablement aussi. J'ose espérer qu'ils ont la même volonté de régler le problème rapidement. Nouvelle suivante. Cela, elle est intéressante au sens beaucoup plus large. AWS va commencer à faire du balayage de mauvaises configurations. Cette nouvelle-là a suivi la fuite de Capital One, dans laquelle un sénateur a demandé des explications à Amazon pour savoir pourquoi tout ça s'était passé, qu'est-ce qui s'était passé. Puis à ce moment-là, bien, la réponse à ça, ça a été du fait qu'Amazon a dit « OK, bien, je vais commencer à scanner mon infrastructure pour voir s'il y a des problèmes de configuration ». Je dois dire que AWS, de façon générale, a une des meilleures configurations par défaut sur le marché de l'info numérique. Donc, a déjà quand même, à mon sens, un certain avantage. Et font un certain nombre de travaux proactifs qui leur permettent de repérer des clés d'API dans sur le kit et ainsi de suite. Ils font quand même du travail proactif. Je me connais plus avec AWS que les autres plateformes majeures. Donc, je parle un peu encore hors de connaissance de cause pour les autres plateformes. Pour ce que je connais des autres, je sais qu'ils ont des efforts, des choses qui sont faites. Je ne sais pas dans quelle mesure ils vont mettre de l'avant, ou en tout cas, je n'ai pas vu de papier ou d'explication aussi bien expliqué, probablement parce que ces joueurs-là sont beaucoup plus jeunes dans le marché que Amazon peut l'être. Mais par ailleurs, si il y en a d'autres qui font ça, c'est merveilleux. S'ils ne le font pas, ben, il serait mieux de copier ce que Amazon va faire. Par contre, ça soulève un autre questionnement, c'est-à-dire que est-ce que c'est la responsabilité du fournisseur info nuagique que de s'assurer que la personne ne se tire pas dans le pied? Et là, c'est une question fort intéressante parce que dans quelle mesure le fournisseur peut limiter les problématiques? Et si on revient à l'entreprise, dans quelle mesure soit le propriétaire de système d'exploitation, parce que c'est essentiellement la même chose, ou le gestionnaire du centre de données est responsable de ce qu'il y a dans son centre de données et à quel point il doit intervenir. En termes de questions, c'est assez intéressant de voir où ça va aller. C'est sûr qu'en tant que consommateur, dans ce contexte-là, je fais clairement confiance à Amazon pour réussir à repérer rapidement, de façon massive, les problèmes de configuration qui peuvent exister dans ces infrastructures et d'aider les clients à aller un petit peu plus loin de ce côté-là. Puis, de rehausser un peu le niveau de l'eau, puis encore là, de regarder ça sur le sens de la santé publique ou un effort de plusieurs acteurs ensemble vont aider à rehausser l'ensemble, mais de façon spectaculaire. Donc, c'est à voir. Je souhaite que ça ait des conséquences positives pour tout le monde. Nouvelle suivante, les femmes en sécurité et les femmes dans le processus de stage, ou en tout cas, peu importe, les femmes dans le milieu des TI, plus spécifiquement dans le milieu de la sécurité. C'est un sujet qui revient constamment. C'est un peu triste que ce sujet-là revienne, je dois dire, parce que s'il faut qu'on en parle, parce que les femmes se sont discriminées négativement, parce que soit les processus d'embauche, soit les processus d'évaluation, soit la mécanique qui entoure ça ne favorise pas la rentrée de femmes dans le workforce en sécurité. C'est excessivement malheureux. Personnellement, j'ai travaillé avec femmes dans ma carrière, dont plusieurs excellentes en sécurité, et qui m'ont appris énormément de choses parce que la diversité nous amène un regard autre sur les choses et nous aide à évoluer. Donc, c'est un peu attristé par cette nouvelle-là. J'espère qu'on va, avec le temps, trouver un moyen d'enlever tous les irritants et tout ce qui peut empêcher les femmes de s'intéresser ou de rentrer dans le milieu du travail en sécurité, surtout qu'on a énormément de manque. C'est d'une absurdité là, phénoménale. Toute personne qui peut contribuer devrait être amenée à contribuer, peu importe. Ultimement, c'est à peu près tout. Là. Si on est capable de contribuer positivement à un milieu, surtout le nôtre qui est en pleine émergence, en pleine... Il faut les accueillir, il ne faut pas mettre des entraves, qu'ils soient visibles ou pas, parce que des fois, le sexisme est parfois institutionnalisé, donc ce qui rend ça les choses un peu plus difficiles pour les femmes de réussir à se sentir à l'aise et confortable. Donc, s'embarquer dans l'extrême là, de... Bref, soyez vigilants. Laissez la place à tout le monde qui peut contribuer. Nouvelle suivante, celle-là, elle est intéressante pour plusieurs actes. Je vais faire un parallèle avec le contexte québécois. C'est-à-dire que la Cour d'appel a permis une poursuite contre Facebook sur la reconnaissance faciale. C'est basé sur une loi de l'Illinois qui fait référence à la reconnaissance biométrique. Donc, la reconnaissance faciale étant une reconnaissance biométrique, il faut que celle-ci soit encadrée de façon correcte. Donc, toute la technologie de reconnaissance faciale que Facebook utilise pour taguer automatiquement les photos vient en contravention avec cette loi-là. C'est intéressant parce que je ne savais pas que l'Illinois avait une loi comme ça. Elle est super intéressante parce que elle leur met en perspective que toutes ces données-là, c'est des données biométriques et qui pourront, à certains égards, être réutilisées pour déverrouiller nos téléphones, ainsi de suite. Donc, on se trouve dans un contexte où on utilise une technologie biométrique pour faire nous aider pour aller faciliter les choses. Dans le cas de Facebook, c'est ça. Ou on va utiliser dans d'autres contextes et aussi tout ça comme moyen de sécurité. Là, dans ce cas-ci, je ne connais pas l'étendue de la poursuite en question. Mais c'est intéressant qu'elle soit ramenée. Puis, en ce sens-là, si on prend la loi au Québec, normalement, toute compagnie qui utilise des facteurs biométriques doit se déclarer à la commission d'accès à l'information. Alors, dans le fond, je suis allé sur le registre il y a à peu près 6 mois. Je n'ai pas vu Facebook être enregistré sur le registre en question. Donc, est-ce que c'est parce que notre institution québécoise n'y s'y intéresse pas, n'a pas été mis au courant d'eux? Ou c'est parce qu'on nous avons pas les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire que le commissariat à la vie privée n'a peut-être pas les ressources suffisantes pour réussir à mettre en application ou même à mordre les institutions qui ne respectent pas la loi dans laquelle on est pour la protection de ce genre de choses. C'est intéressant parce que ces bases de données-là, comme les autres, sont de très sensibles. On verra. Puis cela aussi va être intéressant de voir. Ça va être ce que le RGPD va ramener par rapport à ce genre de choses-là, parce que c'est des notions qui s'y rapprochent à certains égards. Fait voir comment le législateur européen va observer cette poursuite américaine-là, voir comment il va l'utiliser pour ses propres réflexions. Ça va être très intéressant à regarder ce genre de choses-là. Nouvelle suivante. Il est proposé que la durée de vie des certificats SSL, dans la nouvelle des HTTPS, mais SSL ou TLS, plus exact, soit rétréci à environ 12 mois, 13 mois. Dans ce cas-ci, mais en tout cas 12 mois pour faire un chiffre rond dans la façon qu'on réfléchit. Il n'y a pas de données qui permettent de corroborer de façon claire qu'il y a un gain réel à ce genre de choses-là. Mais en même temps, ça devrait faire partie d'un cycle normal, au même titre qu'on change nos licences, qu'on fasse une espèce comme de ménage annuel de ce genre de choses-là, pour voir que nos certificats sont toujours sains, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été exploités, ils n'ont pas été brisés. Et de changer ce genre de choses-là. Surtout que beaucoup des mécanismes maintenant permettent un changement automatique de ces certificats-là, comme dans Let's Encrypt, entre autres, qui lui est beaucoup inférieur à un an d'ailleurs, en termes de renouvellement, ce qui fait que dans un contexte où tout ça est mécanisé, tout ça se fait relativement seul et fonctionne relativement bien, ce serait de voir l'avantage. Et pour ceux qui le font manuellement, c'est sûr que c'est une certaine douleur. Dans certains de mes mandats, j'ai effectivement eu à poser ces questions-là, puis j'ai eu énormément de résistance à l'idée de ramener à une échéance très bas. Et les technologues ont tendance à pousser la date le plus loin possible parce que ça leur donne du travail, ce qui prend la raison, mais en même temps, si ça a un effet négatif sur la sécurité, c'est à réévaluer ce qui est à faire avec ce genre de choses-là, puis voir comment on peut réellement améliorer. Il faudrait juste que peut-être avoir peut-être des métriques de voir si ça a un effet réel au lieu juste de se baser sur des rumeurs et des oui-dire sur la façon d'évaluer ce genre de choses. Nouvelle suivante, puis celle-là, elle est très intéressante parce que dans le domaine, il parle de pandémie de cyber, c'est-à-dire que c'est un regard peut-être un peu plus militaire sur comment on peut aborder le monde de la cybersécurité dans le sens où c'est en train de devenir utilisé dans toutes les sources, c'est-à-dire autant dans les entreprises que dans le commerce, mais c'est en train de devenir aussi très présent dans le monde du militaire depuis plusieurs années, là, on ne s'en cachera pas. Mais c'est de plus en plus évident que ça va être utilisé. Et si on suppose qu'il y aurait un conflit militaire ou cyber-militaire, si on veut aller dans ce genre de nomenclature-là, comment les États pourraient réagir et comment on serait capable de réussir à ramener puis à travailler sur ce genre de choses-là et qu'on aurait probablement un manque flagrant de ressources pour être capable de se battre dans le monde du cyber ou de défendre dans le monde du cyber contre un assaillant qui s'en prendrait à ce genre d'infrastructure-là. Très intéressant, chose à regarder. C'est un petit monde. Ce serait à voir de comment les choses vont évoluer. Puis c'est le fun de commencer à regarder de plus en plus sous cet axe-là, comment ce genre de choses-là peut être utilisé. Autre nouvelle, blockchain. C'est une technologie qui est proposée pour être utilisée pour protéger les machines de votation aux États-Unis. Il y a quelques États qui l'ont déjà commencé à déployer ce genre de choses-là. Mais par ailleurs, plusieurs experts en sécurité ont soulevé le fait que le blockchain n'est pas une panacée au sens où c'est pas ça la mécanique qui va assurer que le vote est pas manipulé. Ce vote-là, c'est dans ce sens-là, si la machine à voter, elle est prise en contrôle par un rootkit, par exemple, on peut pas ne compter les votes autant parce que même s'ils sont blockchainés, ça demeure que le vote n'a pas plus de valeur que s'il ne soit pas blockchainé parce que le vote lui-même, quand il est enregistré, il est déjà corrompu. Et le blockchain ne fait juste que corroborer le fait qu'il a été corrompu, finalement, enregistrer l'information qui lui a été poussée. Donc, c'est pas magique. Et c'est pour bien des choses, le blockchain, ce n'est pas magique. Il faut vraiment prendre ça pour ce que c'est. Il sert justement à assurer une forme d'intégrité. Que ton information qui rentre à l'intérieur soit déjà intègre, si elle ne l'est pas, dans le cas des machines à voter, ça vient enlever toute valeur de rajouter ça par-dessus un système qui est déjà non fiable. Donc, c'est intéressant de voir, puis que le hype descende un peu, puis qu'on puisse utiliser de façon légitime le blockchain dans des cas d'utilisation qui servent vraiment à quelque chose, mais en même temps, enlever un peu tout le l'aspect un peu exagéré qui entoure ce genre de technologie-là. Fait que ça va être intéressant de constater ce genre de choses-là pour ce qui s'en... Nouvelle suivante, une habité dans WPA3, qui est le nouveau standard de chiffrement pour le sans-fil. Puis l'essentiel de ce problème qui est associé avec ça, c'est que c'est compatible avec des vieilles technologies, ce qui fait que de ce moment-là, ça vient être problématique. L'essentiel, c'est qu'on est capable de retourner des plus vieilles façons de faire qui viennent limiter la qualité de la protection qui va avec ça. Ce qui fait que, ultimement, la compatibilité vers les versions plus vieilles est un problème en soi et va réduire la qualité de cette nouvelle mesure-là. Puis peut-être de voir comment on peut limiter ça de façon configuration. Et en même temps, il faut aussi réfléchir que, c'est ça qui est important là-dedans, c'est pas la cryptographie qui est brisée, mais c'est vraiment comment faire pour passer à côté des choses. Soit les systèmes de sécurité, c'est les réfléchir pour éviter qu'on soit capable de les contourner parce que c'est peut-être pas la serrure elle-même qui est brisée, mais le fait que la fenêtre à côté permet de faire d'autres choses et donc réussir à passer par-dessus les choses de sécurité. Autre nouvelle, on en a vraiment beaucoup. L'absence cet été fait qu'un petit rattrapage à faire. Microsoft va désactiver le WS Script à partir de Internet Explorer 11. J'imagine que c'est parce que c'est une technologie qui est essentiellement assez vieille, assez désuète, qui est remplacée par des choses beaucoup plus modernes, beaucoup plus efficaces. Et de toute façon, ça n'était pas supporté dans Edge, qui est le remplaçant d'Internet Explorer. Fait que c'est une façon pour Microsoft de commencer à pousser encore plus vite cette abandon-là de cette technologie-là qui est désuète, qui ne fonctionne. C'est un peu la dette technologique que Microsoft nous a imposée sur le fait de ces systèmes propriétaires qui vivent encore l'entreprise et qui sont très dispendieux à faire sortir. C'est une situation qui est un peu malheureuse en soi, là, mais bref. Autre nouvelle, c'est une nouvelle sur Google Project Zero, qui dans ce cas-ci amène un volet peut-être beaucoup plus positif de leur initiative. Ils disent que la majorité des vulnérabilités qui se sont découvertes par eux autres sont corrigées dans les 90 jours qui suivent, ce qui est en soi une excellente nouvelle, ce qui fait que l'effet ultime est très bon. C'est sûr que cette chose est annoncée pour se faire un peu publicité à part de Google, mais par ailleurs, c'est une très belle nouvelle malgré tout, et qui permet de mettre en lumière l'importance de la contribution dans un système aussi vaste et aussi multiple que peut l'être le monde de la sécurité dans lequel on est. Autre nouvelle, puis ça fait un peu un retour sur les Boeing 737 MAX, qui ont connu un peu une saison, un été un peu difficile, suivant la découverte que c'était mal couvert, mal seté dans leur chose. Donc, le travail de correction que Boeing a fait sur ça a été parfois assez intéressant parce qu'ils ont finalement mis beaucoup, beaucoup d'énergie dans ce genre de choses-là. Et le Federal Aviation Agency a mis aussi beaucoup plus de contrôle et surveillé davantage ce qui s'est passé, ce qui donne un système qui est beaucoup meilleur que ce qu'il était avant et qui va permettre de corriger et peut-être à même améliorer le tout dans quel c'est. Donc, ça, puis ce qui est une bonne nouvelle en soi là, pour ceux qui prennent l'avion. Mais de l'autre côté aussi, c'est de voir à quel point c'est l'importance du législateur dans des milieux comme ça, parce que moindrement que le contrôle se relâche, il y a eu abus et il y a eu exagération dans ce cas-ci qui a porté des pertes des vies. Ce sont très malheureuses et qui n'aurait jamais dû arriver dans les faits. Donc, tout ça, il est excessivement malheureux. Autre nouvelle, Blue Key, la vulnérabilité de Blue Key est maintenant rendue introduite dans les outils de pentest qui sont largement utilisés dans ce cas-ci. C'est Metasploit a intégré tout ça. Donc, c'est un autre rappel assez brutal que c'est, si vous n'avez pas encore corrigé toutes les vulnérabilités sur les systèmes, si les vulnérabilités sont en mai de BlueKey, c'est très important d'avoir fait parce que maintenant, c'est même facilement accessible par tout le monde, ce genre de vulnérabilité-là, qu'on risque d'avoir une croissance assez importante de ce genre de choses-là. Et quand on revenait au problème des rançons logicielles plus tôt dans l'épisode, c'est un autre élément très important qui faut souligner. Si vous ne corrigez pas, vous allez risquer de vous faire toucher par ce genre de choses-là. Et ensuite, on va commencer avec deux nouvelles qui touchent Equifax. C'est un peu un suivi de tout le fiasco qui a eu lieu depuis 2017 avec Equifax. De un, le recours collectif a été conclu à 700 millions, ce qui fait que Equifax a accepté de payer 700 millions. C'est un signe que ces fuites de données-là ne sont pas gratuites. Et encore plus dans le cas d'Equifax, qui a été de très mauvaise foi dans l'ensemble du processus, c'est-à-dire qu'il a contesté, n'a pas voulu participer, était très mauvaise foi, ce qui les met en opposition extrême face à Desjardins dans ce cas-ci. Et la seconde nouvelle, et celle-là aussi est intéressante, et va amener peut-être le législateur à intervenir, un peu ce que je mentionne, c'est qu'un des exécutifs d'Equifax a été trouvé coupable de délit d'initié. C'est-à-dire qu'ils savaient que les passeurs n'étaient pas patchés. Et d'ailleurs, ils l'avaient refusé qu'ils se patchent. Donc, dans leur cas, eux autres, ce qui est très grave, c'est qu'ils ont pris une décision qui a amené la vulnérabilité. Et la base de cette vulnérabilité-là, en fait, utilisé l'information privilégiée pour faire de l'argent sur le dos de cette paille-là. Donc, ça a été largement puni. Ça nous rappelle un peu Sarbanes-Oxley, ce genre de choses-là. Fait que, ça serait intéressant de voir si le législateur va intervenir à ce moment-là. Donc, de voir à quel point on va être plus sévère par rapport à ce genre de choses-là. Autre nouvelle, le Kazakh, le gouvernement du Kazakh, Kazakhstan, excusez, la prononciation est assez douteuse, a décidé d'intercepter tout le trafic TLS, HTTPS, en obligeant tous les citoyens du pays d'installer le certificat racine du gouvernement. Ce qui fait qu'essentiellement, c'est que tout ce qu'on croit être chiffré à travers le HTTPS ne l'est finalement pas tout le temps. Ça, c'est un sévère rappel parce que là, c'est d'un point de vue étatique, ça a été fait, mais en entreprise, ça se fait aussi. Puisque les outils de sécurité utilisent ces stratégies-là pour réussir à inspecter tout le trafic chiffré qui passe en HTTPS. Ce qui fait que pour ceux qui pensent que leur communication est entièrement chiffrée, c'est peut-être une petite douche froide sur ce genre de choses-là. Ça ramène tout le concept de chiffrement de bout en bout, où le chiffrement a lieu avant le chiffrement du transport par HTTPS, mais ça fait directement dans le compte à ce moment-là. Autre nouvelle qui est aussi intéressante dans le contexte québécois, un contracteur, un sous-contractant de la NSA a été reconnu coupable d'avoir amené des documents classifiés à la maison pour son travail. Donc, ça a été fini dans ce cas-ci. C'est quand même un volume assez important. C'est quand même 50 terabytes de données qui ont été ramenés sur une période de 20 ans, ce qui est quand même assez substantiel. Mais comme on a vécu au Québec avec l'Agence du revenu, avec une personne qui s'est envoyé déjà des dossiers confidentiels à la maison sur son adresse courriel, c'est le même genre de comportement. Il n'y a aucune raison, surtout en 2019, qu'une personne travaille avec du contenu sensible en dehors des infrastructures qui lui sont fournies par son employeur. Ça devient très louche. Si l'employeur ne veut pas que les données sortent, il y a des raisons. Les contourner par peu importe le moyen, à ce moment-là, c'est pas un problème de sécurité en soi, mais c'est un problème que les individus ne sont peut-être pas suffisamment sensibilisés ou les employés ne se comprennent pas la portée de leurs gestes. Sans vouloir faire que la personne de l'Agence du revenu devienne un exemple par rapport à ce qui s'est passé, mais minimalement qu'un message fort qui soit envoyé pour que ça rappelle aux employés qu'ils manipulent de l'information très sensible, qu'ils manipulent souvent des choses comme ça. Donc, toute tentative de contournement de ces choses-là a des impacts et il faut que ces impacts-là soient correctement punis pour que on cesse d'avoir ce genre de problème-là dans l'industrie et que les gens mesurent davantage les conséquences de leurs gestes à ce moment-là. Et la dernière nouvelle, le Defense Innovation Board met beaucoup d'emphase sur l'architecture zéro confiance, qui, moi-même, j'en ai parlé pendant plusieurs années que j'en parle, ça prend beaucoup de temps à avoir l'attraction pour réussir à le faire. Eux focusent principalement sur le fait, là, un peu comme la micro-segmentation, zéro trust, véhiculé à l'heure actuelle par les grands fabricants de virtualisation, c'est-à-dire qu'on met dans le fardeau de la couche réseau de faire un gros effort de réussir à bloquer les communications ou restreindre les communications plus que possible. C'est une couche très importante. C'est sûr que c'est la première barrière qu'on rencontre qui limite énormément les choses. Mais par ailleurs, ça ne doit pas être la seule barrière. Il faut aussi que chaque système en dessous et chaque composant en dessous soit durci et limite à lui, sur son territoire à lui, la capacité d'être attaquable. Donc, le zéro trust doit s'appliquer à toutes les différentes couches et ne pas se retrouver sur la vieille façon de faire des forteresses avec un mur à l'extérieur puissant puis avec plus rien à l'intérieur. Donc, de réussir à faire ça par couche et on tombe dans les choses de défense en profondeur, mais pas en défense en profondeur de sens où c'est des couches successives, mais chaque unité devient autonome et chaque unité est protégée par plusieurs éléments distincts qui viennent assurer que lui-même ne peut pas être exploité. Donc, ça termine un peu l'épisode de retour de la rentrée, un retour pour la rentrée. Très chargé, même tout ça, j'ai réussi à faire beaucoup de temps. C'est un peu pour rattraper un peu l'ensemble des nouvelles qu'il y a eu cet été, puis les grands trucs qu'on n'a pas abordés. Si vous avez des sujets à proposer, proposez-les. On a plusieurs épisodes spéciaux en cours de préparation. Donc, à la prochaine!